L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine L'EM qui plonge vos oreilles dans le Finistère avec toujours en cette 9e saison l'invité de première partie. Le mardi souvent c'est science, aujourd'hui la science est concrète avec la suite du cycle qu'on a lancé au mois d'octobre. Notre partenaire c'est l'association Les Petits Débrouillards Bretagne avec qui on a déjà travaillé par le passé. Les Petits Débrouillards font de la vulgarisation des sciences, de la médiation des sciences si vous préférez et aussi des techniques. Et il est donc question de ça dans cette série d'émissions autour de l'adaptation au changement climatique. S'adapter, ça veut dire qu'on prend acte du fait que le climat change. Et en effet, ça a déjà commencé. On s'efforce de limiter le changement, bien sûr, mais on est déjà contraint aussi de faire avec. Aujourd'hui, on s'adapte un peu loin du Finistère, pour une fois. On ira du côté de Vannes, en compagnie, en studio, de Léna Lefebvre, qui est bénévole, devenue volontaire en service civique des Petits Débrouillards. Ensuite, elle deviendra chargée de mission adaptation pour le CEREMA, un organisme public dont elle nous parlera en fin d'émission. Son domaine, ce sont les sciences sociales, la géographie et l'environnement. Elle a fait son mémoire de recherche sur la vulnérabilité sociale des Dalits, les intouchables, en Inde, face aux risques hydrauliques au Tamil Nadu. Tamil Nadu, je ne sais pas, l'un des États indiens. Bonjour Léna.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que peuvent apporter les sciences sociales, la recherche en sciences sociales à cette question de l'adaptation au changement climatique ?
Alors donc la question est assez vaste et pour répondre il faut d'abord définir ce que sont les sciences sociales.
C'est vrai.
Donc en gros, les sciences sociales étudient les comportements humains, les relations et les institutions pour comprendre comment nous vivons ensemble et organisons nos sociétés. Donc elle regroupe plusieurs disciplines, dont par exemple la sociologie, qui analyse les structures sociales, les relations, les institutions, l'anthropologie, qui explore les cultures, les coutumes, les modes de vie des populations à travers le monde. Et puis, on peut aussi citer par exemple la géographie sociale, qui est plutôt mon domaine, qui explore, elle, comment les espaces influencent les sociétés et comment les sociétés transforment les espaces.
Oui, parce que géographie, c'est vrai que ça peut être aussi géographie physique, plutôt géologie.
Exactement.
On en reçoit souvent d'ailleurs sur cette antenne, mais là, c'est plutôt géographie humaine, comme on disait autrefois.
Voilà, c'est ça. Donc on s'intéresse plutôt aux sociétés.
Et géographie et environnement, donc c'est un master qui, enfin moi je ne connaissais pas, qui existe. Il est à quel endroit ? Il est
Alors j'ai fait mes études à l'EHESS, qui est une école à Paris.
École des hautes études en sciences sociales.
Exactement. Mmh. Et mon master était plutôt axé sur les études asiatiques. Et c'est pour ça que j'ai axé mon mémoire sur l'Inde. Et puis au sein de ce master, on choisit en fait sa discipline. Donc il y a des personnes qui vont plutôt s'orienter vers l'anthropologie et d'autres vers la géographie, l'histoire, etc. C'est assez vaste et ça englobe en fait toutes les sciences sociales. Donc on choisit un peu sa direction en fonction de nos intérêts personnels et de notre formation antérieure.
Et donc en matière d'écologie, les sciences sociales ont aussi leur pierre à apporter. Pourquoi, comment en fait ?
Alors en matière de... en tout cas, les sciences sociales apportent quelque chose à l'adaptation au changement climatique. Parce que déjà, elles permettent de mieux définir les notions. Donc, je pense que Quentin l'a décrit dans le premier podcast, la notion d'adaptation s'oppose à celle d'atténuation. Donc là, vraiment, c'est des questions de vocabulaire.
L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. On peut très bien continuer à essayer d'atténuer le changement climatique, mais bon, voilà, quoi. Faut aussi s'adapter. Là on n'a plus le choix.
Ouais, exactement. Donc, l'adaptation s'intéresse vraiment aux conséquences du changement climatique, donc risques, aléas, catastrophes naturelles. En sciences sociales, on va utiliser plutôt le terme de résilience, donc qui est plutôt plus ou moins la même notion en fait. À partir des années 2010, la notion de résilience apparaît un peu partout dans les
un
travaux
peu trop
de recherche.
Ouais. Si je puis me permettre.
Ouais. Et globalement, c'est la même notion. L'idée, c'est de s'intéresser à la capacité des individus à faire face à une crise, à dépasser la crise. Et au-delà de ces notions, les sciences sociales peuvent aussi permettre de travailler par exemple sur l'élaboration de politiques d'adaptation ou d'aménagement du territoire. Donc ça veut plutôt être la géographie qui va s'intéresser à ces notions là mais il y a aussi plein d'autres aspects qui peuvent être abordés par les sciences sociales, par exemple les études de genre qui s'emparent aussi de cette notion là souvent les femmes sont montrées comme plus vulnérables au changement climatique. Par exemple, on peut citer une chercheuse indienne qui s'appelle Vandana Shiva, que vous connaissez peut-être, qui est une figure majeure de l'écoféminisme.
En effet, elle est assez connue, ouais.
Ouais. Et elle travaille sur la défense de la nature, des communautés par des systèmes patriarcaux et industriels d'un côté, et puis de l'autre, elle va plutôt s'intéresser à l'adaptation du modèle agricole au changement climatique. Donc, elle va vraiment réfléchir à l'utilisation qu'on fait de l'eau pour prévenir les sécheresses, les inondations. Donc, il y a vraiment une sorte d'intersection entre les études sociales et les études plus techniques et d'adaptation des modèles agricoles au changement climatique.
Parce qu'elle, elle a démontré que c'était plutôt les femmes qui étaient porteuses de changements
oui, c'est ça.
En matière
agricole. Les femmes portent les projets. Elles montrent non seulement qu'elles sont plus vulnérables, mais qu'elles peuvent apporter quelque chose au sujet d'adaptation au changement climatique. Et puis en anthropologie, on peut avoir d'autres approches. L'anthropologie va plutôt s'intéresser aux différents systèmes d'adaptation qui existent selon les cultures, les modes de vie, le niveau de vie de population. Donc on peut citer par exemple le film The Ice Builders, qui a été réalisé par Francesco Clerici et Tommaso Barbaro, qui explore les impacts directs du réchauffement climatique à travers un voyage au Ladakh, qui est un état dans le sud de l'Inde. Dans le nord de l'Inde. Et le film met en lumière les conséquences du changement climatique sur les communautés qui dépendent des glaciers pour leur accès à l'eau. Et donc, les villageois en question ont adopté une technique innovante qui est la construction de glaciers artificiels qu'ils ont appelés des stupas de glace qui permettent de préserver l'eau, de la conserver sous forme de glace.
Ils stockent la glace quand c'est l'hiver, en fait, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Et ça leur fait une réserve d'eau pour l'été.
Exactement.
Et c'est énorme, en plus, c'est des montagnes de glace.
Hein, c'est ça. Et en fait, le stupa, on se rend compte que dans le bouddhisme, c'est une structure sacrée en forme de dôme, souvent construite pour abriter des reliques, symboliser les enseignements du Bouddha, etc. Donc finalement, on se rend compte que la façon de nommer les choses, c'est aussi très culturel. Et c'est ça que peut apporter l'anthropologie, par exemple, dans la recherche sur l'adaptation au changement climatique. Parce que là, on a vraiment une technique assez innovante qui est utilisée par des communautés de population assez isolées et qui s'emparent de ces techniques-là pour les nommer d'une façon très particulière.
Mmh. Et il y a aussi je ne sais pas si ça fait partie des sciences sociales, la psychologie sociale, parce que pour tout ce qui est justement soit déni climatique ou au contraire acceptation du changement climatique, est-ce que là-dessus ces sciences aussi sont impliquées
Oui, tout à fait, ça peut être aussi l'objet de nombreuses recherches dans le domaine. Je n'ai pas forcément lu beaucoup de recherches là-dessus, mais ça existe. De toute façon, la recherche s'intéresse un peu à tout, donc on peut trouver tout et n'importe quoi.
Ouais.
Tout, plutôt, pas n'importe quoi.
Et puis voilà, c'est important de rappeler qu'il n'y a pas que les sciences, entre guillemets, dures, les sciences, ou les sciences de la Terre qui sont impliquées en fait dans ces questions d'adaptation au changement climatique. Donc vous, alors Léna Lefebvre, vous avez donc voyagé pour les besoins de votre master. Donc, alors redites-nous l'intitulé du master, c'était
Études asiatiques.
Tout simplement.
Histoire. Alors le nom exact, je me souviens plus. C'est un long titre. Voilà. Globalement, c'est sur les études asiatiques et on peut axer la recherche sur une discipline de notre choix.
Et donc vous êtes allé dans un état d'Inde qui s'appelle le Tamil Nadu, c'est ça, c'est comme ça qu'on prononce.
Oui.
Alors est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit ?
Alors le Tamil Nadu, c'est une région dans le sud de l'Inde qui est assez connue puisque c'est là que se trouve Pondichéry, donc l'ancienne colonie française. Donc là-bas, c'est une région qui est très très vulnérable aux cyclones, sécheresses. Inondations, il y a un climat qui est semi-aride, donc avec une période une saison des pluies où il va pleuvoir énormément.
Une mousson, c'est ça ?
Voilà, exactement. Et puis une période sèche qui dure longtemps et qui met à l'épreuve en général les agriculteurs, puisqu'ils n'ont souvent pas assez de réserves en eau et ils font face à de nombreuses difficultés.
Donc votre sujet, c'était ça, la vulnérabilité hydraulique ? Donc
voilà.
Quand on dit voilà, c'est vraiment l'apport d'eau. Hein, c'est pas, il n'était pas question d'érosion côtière ou de submersion marine
non.
Là, dans ce.
Non, j'ai travaillé essentiellement sur l'inondation et la sécheresse dans deux villages d'études, un qui est donc vulnérable aux inondations, il y a ma part, et l'autre aux sécheresses, Mel Valley. Donc deux villages très différents sur les enjeux Qui se ressemblent parce que j'ai travaillé sur la communauté de Dalits.
Alors les Dalits, c'est l'autre nom des intouchables, c'est,
exactement.
Le nom local.
C'est le nom que se donne la communauté elle-même pour se qualifier, parce que intouchable, c'est un terme assez dévalorisant et qui a été utilisé notamment par les castes supérieures. Donc pour rappel, la société indienne est structurée en castes.
Mais toujours, c'est toujours en vigueur ça, cette structuration en castes.
Ouais, tout à fait.
Ah ouais.
Donc voilà, donc ils se sont appelés les Dalits, qui signifie opprimé en marathi, la langue de l'état d'à côté. Et voilà, donc c'est aussi une façon de se revaloriser. Et c'est pour ça que maintenant tous les chercheurs utilisent le terme Dalit ou ex-intouchable pour qualifier cette communauté. En général, les gens utilisent le terme d'intouchable et ça leur parle beaucoup plus. C'est pour ça que je l'utilise aussi.
En France, en tout cas, c'est vrai qu'on connaît encore plus le terme intouchable, malheureusement. Ceci dit, ça doit être une réalité sociale aussi. Et donc, les villages où vous étiez, c'est des villages avec que des Dalits, ou est-ce qu'il y a des différentes castes qui sont dans ces villages?
Il y a différentes castes qui sont représentées. Alors, à chaque fois, c'était des castes différentes, supérieures. Il n'y avait pas un écart énorme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de brahmanes, donc les prêtres qui sont la caste la plus élevée, ou alors il y en avait un, c'était très très rare. Donc il n'y avait pas des écarts énormes, mais on sentait quand même de grosses différences entre les castes, notamment dans la répartition du capital environnemental. Donc j'ai quelques chiffres là à vous donner si ça vous intéresse. Il y a un vrai accès inégal à la ressource, aux ressources naturelles en règle générale, puisque par exemple la ressource en eau est vraiment mal répartie. Le nombre de puits est assez révélateur, puisque les hautes castes hindoues bénéficient de 136 puits dans le village de Melvalley contre 22 côté Dalit, alors que la population, donc certes, ça s'explique par le fait que les autres castes hindoues sont supérieures en termes numériques.
D'accord.
1571 contre 750 pour les Dalits, mais par contre, il y a quand même, ils sont deux fois plus nombreux, mais ils ont aussi, les autres castes hindoues ont six fois plus de puits que les Dalits, donc il y a quand même un gros écart.
Et les Dalits ont quand même des terres à cultiver, etc.
Alors à Melvalley, oui. À Yemapur, ils n'ont pas de terres du tout, ils sont sans terres. Donc c'est très inégal selon les villages d'études, mais oui. Et en plus de ça, les autres castes hindous ont deux lacs, alors que les Dalits n'en ont aucun. Donc on voit vraiment la différence entre les castes.
Et en termes d'inondations, c'est pareil, il y avait des inégalités aussi dans l'autre village visible.
Ouais. À Yemapur, par exemple, les Dalits sont situés en bordure de rivière, ils sont beaucoup plus vulnérables aux inondations. Et évidemment, ils n'ont pas de moyens d'y faire face. Les bâtiments ne sont pas du tout surélevés, ils sont fissurés. On sent qu'il y a vraiment peu de moyens. Et puis, ils n'ont mis aucun moyen en œuvre, c'est-à-dire que il n'y a pas de groupe catastrophe. À Melvalley, on retrouve un groupe catastrophe qui gère les situations de crise.
Avec les sécheresses, donc, c'est ça?
Ouais, il y a des acteurs qui gèrent la crise, qui composent à la fois des élus et puis des populations, des bénévoles, qui orientent la population, dans les abris, s'il y a une crise. À Yemapur, il n'y a rien. Et ça a été un gros problème, puisque en fin novembre, il y a eu un cyclone en Inde qui a touché l'Inde et le Sri Lanka, qu'on n'a pas trop entendu à la radio.
Non, alors pas du tout, là, vraiment.
Mayotte a pris le pas. C'est passé peut-être une semaine après, donc on n'a pas du tout entendu parler de l'Inde. Ce cyclone a fait vraiment beaucoup de dégâts à Yemapur, et six mois avant, j'étais là en train de leur dire « Et les risques d'inondation ?» Et puis ils me disaient « Mais non, nous, c'est bon, ça va. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas été touchés. » Et puis, six mois plus tard, ils ont été complètement ravagés par les inondations.
Donc là, il n'y a pas d'adaptation, finalement. Vous n'avez pas constaté qu'ils s'adaptaient, finalement.
À Yemapur, beaucoup. Il y a d'autres formes d'écologisme. Ce que j'ai identifié, c'est une forme d'écologisme des pauvres. Donc je reprends la notion de Joanne Martinez-Allier. C'est une écologie en gros des petits moyens, donc des petits gestes, donc défense des besoins en eau, accès à la terre, indépendance des marchés globalisés, jardin individuel collectif. Donc c'est vraiment des petits gestes au quotidien qui sont faits, mais rien de d'exceptionnel, il n'y a pas de bâtardeau. Il y a un barrage à Yemapeur, mais qui a été mis en place par le gouvernement. La communauté d'Ali, en tant que telle, ne met pas grand-chose en place pour faire face aux inondations. Elles sont appuyées par, elle est appuyée par contre par une association qui s'appelle l'IRDS, par laquelle je suis entrée sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec cette association qui, elle, met en œuvre des choses pour la population dalit. Mais voilà, c'est une association qui est financée par Terre des Hommes France, qui est une association française, et ils dépendent en fait d'autres structures. Enfin, ils sont dans tous les cas pas du tout autonomes, quoi.
Alors voilà, ça c'est la situation de l'Inde. On va revenir à Vannes, aux petites débrouillères de Vannes. Vous êtes en service civique désormais. On s'intéresse aussi donc à l'adaptation au changement climatique chez nous, les spécificités locales. Laura Tagnou, qui est salariée de l'association et référente de l'antenne de Vannes, n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais elle nous a expliqué que l'un des défis locaux chez nous, ce sera faire face à la montée du niveau marin et à ses conséquences, comme l'érosion côtière, la submersion marine, donc aussi des inondations. Donc pour s'adapter, les petits débrouillards de Vannes utilisent plusieurs outils, et notamment de l'observation citoyenne, de la transmission des données sur le trait de côte, avec une application numérique qui s'appelle CoastNap Morbihan. Et puis il y a les aires marines éducatives, dont Laura Tagnou donc, va nous parler.
Les aires marines éducatives, c'est une initiative qui a été lancée et qui est toujours portée par l'Office français de la biodiversité. C'est né aux îles Marquises à la base. Et en fait, c'est un projet où des écoles, donc des primaires, hein, vont choisir une zone à protéger près de leur territoire. Une zone qui doit être accessible à pied ou à vélo. Et tout au long de l'année, ils vont apprendre à découvrir leur aire marine, les enjeux, voir qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Et ça se fait par différents ateliers, la rencontre avec des scientifiques, avec différents spécialistes. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que les enfants, en fait, sont vraiment acteurs du début à la fin, parce que c'est eux qui choisissent leur thématique chaque année. Donc, il y a une année où ça peut être sur l'eau, une autre année où ça peut être, par exemple, sur les questions d'érosion. Et de cette manière, ça permet de rencontrer plein de professionnels qu'ils n'auraient pas pu rencontrer dans un cadre différent de celui d'une aire marine.
C'est grand comment, à peu près, une aire marine ?
Une aire marine, ça peut avoir différentes tailles, mais ça peut être, par exemple, une partie d'une plage. Une partie d'une plage où les enfants vont observer une évolution de la diversité des espèces, ou observer un arbre qui est proche d'une falaise. Et donc, dans ce cas-là, ils vont choisir cette zone-là parce qu'ils observent différents éléments qui vont leur permettre après de travailler sur plusieurs années, puisque les projets d'aire marine se portent souvent à l'échelle d'école, donc ça se fait sur plusieurs années. Il y a vraiment une passation entre classes.
Donc les actions d'adaptation au changement climatique, c'est plutôt au bord de mer, en tout cas, pour Vannes.
Oui, c'est vrai qu'on est aussi dans une zone très touristique, donc il y a des observations des pressions anthropiques hyper importantes, donc vraiment liées à l'existence, à la présence des êtres humains, comme par exemple les stationnements voiliers qui vont venir abîmer et arracher des lieux de vie, comme les zoosphères ou les piétinements qui ont donné lieu à un vrai travail d'adaptation pour faire de nouveau revenir certaines espèces qui avaient complètement disparu. Et il y a des vrais enjeux de sensibilisation aussi liés au tourisme de masse dans notre territoire.
Est-ce que les enfants qui participent en tout cas aux observations des aires marines, justement, comprennent ce concept d'adaptation, se sentent prêts aussi à s'adapter
Ça dépend des classes, des profils des élèves, parce que les aires marines, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être autant dans des écoles de plein centre-ville de Vannes, comme dans des écoles vraiment en bord de mer, où on est avec un public d'enfants qui ont des parents ostréiculteurs, conchiculteurs, et où là, il y a déjà une sensibilisation qui existe. Et donc, les enfants partent souvent de connaissances différentes, mais on observe quand même que il y a une connaissance de base aussi parce que c'est des choses sur lesquelles les enseignants en primaire travaillent de plus en plus. Et donc, les enfants ont quand même une connaissance assez importante, je trouve. Et ont souvent plein d'idées de ce qu'ils voudraient faire. Et ce qui est intéressant dans le projet d'Air Marine, c'est qu'en fait, ils ont la possibilité, en tout cas, de demander à rencontrer les élus. Après, ça dépend des municipalités. Il y en a qui jouent vraiment le jeu. Et d'ailleurs, qui vont assez loin, hein, qui vont après répondre aux demandes des enfants, qui vont installer des protections pour limiter l'érosion, ou qui vont installer des panneaux que les élèves ont créés avec des professionnels pour sensibiliser le public justement au piétinement sur certains chemins. Donc ils ont un vrai rôle à jouer. En général, ça leur tient vraiment à cœur.
Donc là, c'est Laura Tagnou qui travaille pour les petits débrouillards Bretagne. Et avec nous, il y a Léna Lefebvre en plateau. Elle est là aussi. Elle est en service civique. Et donc, Léna, les petits débrouillards travaillent avec plein d'outils. Hein. C'est pour les gens qui ne connaissent pas l'association. Par exemple, sur la forêt, il y a un jeu aussi que Laura nous a présenté, mais qu'on n'aura pas le temps de diffuser. Vous, Léna, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, comme atelier autour de l'adaptation au changement climatique en ce moment?
Alors, avant, l'association proposer des parcours sur l'adaptation au changement climatique par espace géographique. C'est-à-dire qu'on avait un parcours s'adapter au changement climatique en ville, s'adapter au changement climatique à la campagne, s'adapter au changement climatique en bord de mer. Et là, avec toute l'équipe de service civique à Lorient, Vannes et Quimper, travaille maintenant sur des parcours thématiques. Donc on va avoir plusieurs parcours, cinq thématiques en tout. Donc eau, diversité, aménagement, santé, société. En gros, pour l'instant, où est-ce qu'on en est? On s'occupe de deux expériences ou jeux, chacun en équipe, en binôme. Donc l'objectif, ça sera à terme d'avoir un panel d'expériences et jeux à proposer selon les thématiques.
C'est quoi, par exemple, vos thématiques?
Alors moi, je travaille sur le bassin versant en ce moment, sur une maquette du bassin versant.
Dans l'eau, évidemment.
L'eau, ouais, ouais.
Logique.
Et puis j'ai aussi choisi une expérience sur la justice climatique, donc plutôt société, dans la thématique société. Et donc là, c'est pareil, c'est un jeu de rôle qu'on met en place pour montrer les inégalités en fait, environnementales et montrer également qui sont les pays émetteurs. Qui sont les pays émetteurs
et qui subit
les conséquences du changement climatique. Donc c'est vraiment un jeu de rôle qu'on réfléchit, donc c'est en cours de réalisation.
C'est toujours des outils concrets, hein, de toute façon, avec les petits débrouillards.
Oui.
Voilà.
Et donc, ouais, exactement. Et dans la thématique eau, on va pouvoir retrouver aussi une expérience sur le retrait gonflement d'argile. Donc là, c'est vraiment une expérience avec de l'argile. Pour rappeler un peu ce que c'est que ce phénomène-là, lorsque la teneur en eau augmente dans un sol argileux, on assiste à une augmentation du volume de ce sol. Donc on parle de gonflement des argiles. Et au contraire, une baisse de la teneur en eau provoquera un phénomène inverse de rétractation ou retrait des argiles. Et donc, pour faire cette activité, on prend de l'argile, globalement on en fait une boule, on la fait sécher au soleil ou avec un sèche-cheveux. Et c'est pour on remarque ce qui se passe. Quoi. Et donc on voit que l'argile se fissure. Donc c'est super intéressant puisque les enfants sont amenés à manipuler et observer les phénomènes. Et donc ça marque d'autant plus les personnes en fait. Et elles comprennent beaucoup mieux le phénomène. Puisque c'est un phénomène que finalement on en entend beaucoup parler mais on ne sait pas forcément le décrire, etc. Donc c'est une activité assez intéressante dans la thématique eau. À titre d'exemple.
Alors, Léna Lefebvre, quand vous aurez fini votre service civique au Petit Débrouillard, vous irez au CEREMA. Est-ce que vous pouvez, vous avez 1 minute 30 pour nous dire ce que c'est et ce que vous pensez y faire.
Ok. le CEREMA, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. C'est une structure publique. Donc, c'est en gros l'équivalent d'un bureau d'études qui travaille pour les collectivités territoriales. Et elle intervient sur des projets internationaux, mais aussi et surtout sur des projets locaux. Finalement, le CEREMA apporte aux acteurs territoriaux un appui en termes d'ingénierie et d'expertise technique pour permettre une transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée. Donc en gros, l'objectif, c'est de convaincre les décideurs de prendre en compte les enjeux d'adaptation en présentant des études concrètes et chiffrées. Donc moi, j'avais fait un stage au CEREMA il y a quelques mois et j'avais travaillé sur un projet de développement auprès de l'AFD et la Banque mondiale. Et donc c'était un projet en Inde, au Kerala.
L'AFD, c'est quoi ? L'Agence française du développement, c'est
ça ? Ouais, c'est ça. Et donc l'idée, c'était d'aider le gouvernement du Kerala à intégrer à la planification territoriale des mesures d'adaptation au changement climatique, et notamment face au risque, enfin, par rapport au risque d'inondation en particulier.
Ah oui, donc le CEREMA n'intervient pas que en France.
Oui, mais souvent, donc, les projets à l'international, ils ne sont pas autonomes, c'est-à-dire qu'ils sont toujours accompagnés par des structures, donc par exemple l'AFD.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup Léna Lefebvre, merci aux petits débrouillards de Vannes. On retrouvera cette émission, réécoutera cette émission sur le site internet de Transistor avec les autres émissions qu'on a réalisées avec les petits débrouillards Bretagne autour de cette adaptation au changement climatique. Et ça va continuer. Merci, au revoir.
Merci à vous.